Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Quelques jours avant le mercredi des cendres, le pape François demande aux fidèles d'entrer dans le carême avec un esprit d'adoration de Dieu, de solidarité fraternelle. Lors de l'audience générale, il a pour la troisième fois exhorté publiquement l'Ukraine et la communauté internationale à œuvrer pour la paix et la concorde dans le pays. Plus de pouvoir pour les femmes au Vatican, c'est ce que souhaiterait le cardinal Casper. Enfin, témoignage du supérieur général de la congrégation des Assomptionnistes, le père Benoît Grière, est religieux. Il fut aussi médecin à Madagascar. C'est l'invité de ce dimanche. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine en langue française de Radio Vatican. Dimanche, jour d'audience générale, le ciel de Rome est gris et sous les fenêtres des appartements pontificaux, une mer de parapluies multicolores. Peu importe la pluie, des milliers de pèlerins se sont rassemblés place Saint-Pierre pour l'Angélus. Et au cœur de la liturgie de ce dimanche de mars, une des vérités les plus réconfortantes aux yeux du pape, celle de la divine providence. Dieu n'oublie personne, ni notre nom, ni notre prénom, a promis François. Dieu t'aime et ne t'oublie pas. Le pape a reconnu que les paroles de l'évangile de ce dimanche peuvent paraître abstraites, voire illusoires, à toutes les personnes vivant dans des conditions précaires ou même dans une misère qui blesse leur dignité. Elles sont pourtant ô combien d'actualité, car a-t-il expliqué, elles nous rappellent qu'on ne peut pas servir de patron, Dieu ou la richesse. Xavier Sartre.
Tant que chacun cherche à accumuler pour soi, il n'y aura jamais la justice. Par deux fois, le pape a répété cette phrase, avant d'expliquer qu'au contraire, si on se fie à la providence de Dieu, qu'ensemble nous cherchons son règne, alors là, personne ne manquera du nécessaire pour vivre dignement. Ce dimanche, le pape a ainsi appelé les fidèles à mettre de côté leur propre bien-être pour se montrer généreux. Un cœur occupé par la soif d'avoir est un cœur vide de Dieu. Voilà qui explique pourquoi Jésus gronde souvent les riches. Parce que pour eux, le risque de voir leur sécurité acquise grâce à leur possession est grand. En revanche, poursuivit le pape, si on laisse à Dieu la place centrale qui est la sienne, alors son amour nous pousse à partager aussi les richesses, à les mettre au service de projets de solidarité et de développement. Ainsi, la providence de Dieu passe par notre service rendu aux autres, avant de citer à nouveau cette formule qui lui vient de sa grand-mère, un linceul n'a pas de poche. Et si cela peut sembler peu réaliste, au regard de la mentalité générale et aux problèmes dus à la crise économique, si vous y pensez bien, a relevé le pape, cela nous remet à la juste échelle de valeur. Pour faire en sorte que personne ne vienne à manquer de pain, d'eau, de vêtements, de maison, de travail ou de santé, il faut que tous nous nous reconnaissions comme fils du Père qui est au ciel, et donc frères entre nous, et que nous nous comportions en conséquence.
Et enfin, avant de saluer les pèlerins, le pape s'est exprimé sur le prochain temps de carême, un chemin de lutte contre le mal, un chemin accompli grâce aux armes que sont la prière, le jeûne et la miséricorde. L'humanité, dit-il, a besoin de justice, de réconciliation et de paix, et pourra en disposer seulement si nous nous recentrons sur Dieu qui en est la source. Entrons dans le carême avec un esprit d'adoration de Dieu et de solidarité fraternelle avec ceux qui, ces temps-ci, sont les plus éprouvés par l'indigence et les violents conflits. À Kiev, en Ukraine, les nouvelles autorités mobilisent leurs réservistes, parlent d'une déclaration de guerre de Moscou après l'annonce samedi d'envoi de troupes russes en Crimée. Ce dimanche, l'actualité en Ukraine a poussé de nouveau le pape à interpeller pour la troisième fois en public tant la communauté internationale que le peuple ukrainien. Je vous propose de l'écouter s'exprimant à l'issue de l'audience générale. Je vous demande, dit-il, de prier à nouveau pour l'Ukraine qui vit une situation délicate. Je souhaite que toutes les parties du pays travaillent à dépasser leurs incompréhensions et à construire ensemble le futur de la nation. Je lance un appel à la communauté internationale afin qu'elle soutienne toute initiative, explique-t-il, favorisant le dialogue et la concorde.
Affinché sostenga ogni iniziativa in favore del dialogo e della concordia.
François, qui avait déjà lancé son premier appel à la paix et au dialogue en Ukraine le 26 janvier dernier, le pape souhaitait alors un dialogue constructif entre les institutions et la société civile, que sans l'usage de la force, l'esprit de la paix et de la recherche du bien commun prévalent. Hélas, la violence l'avait emporté sur le Maïdan et le pape, préoccupé, avait assuré le peuple ukrainien de sa proximité et de ses prières lors de l'audience générale du 19 février dernier. Et puis toujours concernant l'Ukraine, les appels à la paix se font pressants. Les chefs chrétiens d'Azerbaïdjan, d'Arménie, de Biélorussie, du Kazakhstan ou encore du Kirghizistan, de la Lettonie, Lituanie, Moldavie, Russie, Tadjikistan, Ouzbékistan, Estonie et bien sûr de l'Ukraine. Ils assurent à la population ukrainienne de leurs prières et de leur solidarité. Dans une déclaration publiée ce samedi, le comité consultatif interconfessionnel chrétien des États de la CEI et des Pays-Baltes exhorte tous ceux dont dépend le futur du pays à s'en tenir rigoureusement aux principes de la liberté de conscience et de religion, à ce que les États et les forces politiques ne s'immiscent pas dans les affaires internes et organisations religieuses. Les méthodes révolutionnaires, tout appel à la violence, à la discrimination, à la prise par la force des lieux sacrés, ne peuvent que nuire, écrivent-ils, à l'unité des chrétiens, ainsi qu'au bon rapport entre les organisations religieuses et l'État quant à la prospérité et au bien-être de toute la société. Leur déclaration s'achève avec cet appel au peuple ukrainien pour qu'il ne ménage pas ses efforts afin d'éviter les provocations éventuelles, à maintenir vivant dans leur cœur l'amour pour le prochain, pour la dignité humaine et la croyance religieuse. Ce lundi s'ouvre le 27e chapitre général de la congrégation salésienne à Rome. 220 de ses membres seront rassemblés jusqu'au 12 avril prochain, veille du dimanche des Rameaux, pour réfléchir, travailler sur un thème. Le thème suivant, témoin de la radicalité évangélique. Ce lundi, à l'issue d'une célébration eucharistique, plusieurs discours avant l'ouverture officielle du chapitre. Parmi les personnalités de la curie s'exprimeront le cardinal de Avise, préfet de la Congrégation pour la vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, ainsi que le cardinal Berton, l'ancien secrétaire d'État lui-même salésien. L'ouverture de ce chapitre général est à suivre en streaming en direct sur missionidonbosco.tv ou unisal.it sur internet. Teach me how to see the way to go, woman who won't. Teach me how to love in the pain, woman of God. Plus de place pour les femmes dans les instances de pouvoir de l'Église. Dans une longue interview accordée ce dimanche par le cardinal Walter Casper au quotidien des évêques italiens, L'Avenire, l'ancien président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens estime que les femmes peuvent occuper des postes à responsabilité ou eh bien dans les organismes qui, au plus haut niveau, n'impliquent pas nécessairement le ministère ordonné, comme dans les conseils pontificaux, par exemple. Le cardinal Casper cite plus spécifiquement les dicastères en charge de la famille et des laïcs. Il évoque également la possibilité de mandats à durée déterminée de 5 ans à la tête des dicastères dans cette interview. Autre entretien, celui du Premier ministre français à l'hebdomadaire Témoignage chrétien, dans son édition datée du 27 février dernier. Quel fut l'apport chrétien à l'histoire de la gauche française ? À cette question, quelle fut la réponse de Jean-Marc Ayrault ? Je ne dis pas que les valeurs chrétiennes et les valeurs socialistes sont les mêmes, mais elles ont des points communs, l'idéal de justice, de fraternité et de partage. Pour le Premier ministre français qui fut engagé, on le sait, durant sa jeunesse au sein du mouvement rural de la jeunesse chrétienne, la laïcité n'est pas un obstacle à la présence de chrétiens dans les mouvements de la gauche. Bien au contraire, dit-il, c'est la laïcité qui permet à tous de militer ensemble avant de retrouver après son engagement religieux ou son absence d'engagement. Jean-Marc Ayrault rappelle d'ailleurs son attachement à la laïcité qu'il estime être une grande liberté. « Je ne conçois pas le fonctionnement de la République », a-t-il dit, « sans dialogue, chacun à sa place avec les grandes religions ». Il est temps maintenant de retrouver notre invitée du dimanche. Sœur Catherine Aubin a rencontré pour nous le père Benoît Grière, l'actuel supérieur général de la Congrégation des Assomptionnistes. Avant d'être religieux, il fut médecin. Il est notamment resté de longues années à Madagascar, ce qui lui a permis d'unifier ses deux vocations de docteur et de religieux. Témoignage.
Père Benoît Grière, vous êtes donc l'actuel supérieur général de la congrégation des Assomptionnistes, mais vous n'avez pas toujours été assomptionniste, vous avez aussi été médecin. Est-ce que vous pouvez nous dire, Père Benoît Grière, le lien entre la médecine et l'Assomption ? Il y a eu un déclic ?
Quand je me suis confié pour la première fois à un prêtre pour lui dire mon intention de devenir religieux, car c'était bien une vocation religieuse qui m'habitait, il m'a demandé avec beaucoup de sagesse ce que je désirais entreprendre comme étude. Alors j'étais un petit peu surpris puisque je lui parlais de vocation religieuse et lui m'a parlé de formation professionnelle, intellectuelle. Alors j'avais réfléchi et la médecine m'attirait parce que c'est une profession où on est en relation forte avec les personnes et où on contribue aussi à leur bien-être, en essayant de maintenir leur santé ou de la rétablir. Donc à l'époque, je ne pensais pas à l'Assomption. Ma vocation était floue, mais le prêtre m'a dit « Écoute, pour avancer dans ton discernement, tu vas commencer les études de médecine. » Et c'est ainsi que j'ai mis le pied à l'étrier pour une petite dizaine d'années d'études.
Alors vous avez noté quelque chose qui est fort intéressant, c'est ce rapport à la santé, ce rapport à l'homme. Est-ce que ça a été déterminant aussi dans le choix de la médecine ?
Alors ça a été déterminant dans le choix de la médecine, puisque je pense que dans notre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur souhaite que nous soyons des hommes debout. Et la dignité de la personne qui se trouve pas seulement dans la santé, mais dans le soin. Et ça, je crois que c'est important. C'est-à-dire l'attention que les uns et les autres peuvent porter pour le corps malade, pour l'esprit en fragilité. Tout cela contribue au bien-être. Je crois que notre Dieu, notre religion, la foi en Jésus-Christ, nous rend attentifs aux petits et les personnes malades nous rappellent au cœur de la société que tout le monde a sa place. Mais ça, c'est une réflexion qui viendra par la suite dans mon cheminement, le lien entre santé et salut.
Venons-en dans votre cheminement, médecine, vous faites médecine et puis, quelques années après, vous entrez chez les Assomptionnistes. Pourquoi les Assomptionnistes ?
Essentiellement parce que j'ai trouvé là une orientation communautaire. L'Assomption est de tradition augustinienne et la présence de la vie fraternelle m'interpellait, m'intéressait. C'était une petite famille, l'Assomption est une petite famille, mais elle est internationale. Cela aussi me motivait puisque j'ai toujours été attiré par ce que l'on appelle la mission à l'étranger, la mission ad extra. Et puis aussi la présence assez rapproché de congrégations féminines. L'Assomption est une famille plus grande que la congrégation masculine des Augustins de l'Assomption. Il y a les religieuses de l'Assomption qui sont nos sœurs aînées, qui ont été fondées une dizaine d'années avant nous. Et puis il y a les branches qui ont été fondées ensuite par des religieux assomptionnistes. Alors soit notre fondateur, le père Dalzon, qui a fondé les Oblates missionnaires de l'Assomption. Et puis ensuite, il y a eu les petites sœurs de l'Assomption et les Orantes de l'Assomption. Donc ça fait une famille où l'élément féminin est présent, et ça je crois que c'est important dans la vie d'un homme aussi, d'avoir des sœurs, une proximité féminine pour son équilibre personnel, et puis aussi pour découvrir cette sensibilité qui est importante pour comprendre le monde, la sensibilité féminine.
Parmi certaines étapes de votre cheminement, il y a eu pendant beaucoup d'années Madagascar.
Oui, c'est une partie de moi-même reste à Madagascar. Je pense que si vous interrogez d'autres religieux, religieuses qui ont travaillé à Madagascar, il y a certainement cet attachement très fort qui reste au-delà des années. Je me considère comme très attaché à l'île, à sa culture, à son peuple, qui est d'une gentillesse extraordinaire.
Mais votre expérience à vous à Madagascar ?
Mon expérience à moi, c'est en arrivant juste après mon ordination, les responsabilités que l'on m'a confiées. L'évêque, Mgr Fulgence Rabeoni, il a demandé que je collabore et puis que je succède à un autre religieux médecin, jésuite, et qui avait commencé à travailler dans l'installation de jeunes médecins malgaches en zone rurale, les médecins de brousse. Donc j'ai repris cette activité d'installation de médecins autochtones.
Est-ce que c'est au cours de cette expérience que vous avez commencé à réfléchir à ce que nous disions auparavant, salut et santé?
J'avais préalablement commencé à réfléchir en rédigeant mon mémoire de maîtrise à l'Institut catholique de Paris, où j'avais travaillé sur le lien santé-salut à travers une religion nouvelle qui s'appelle le harisme en Côte d'Ivoire. C'est une religion qui a plus d'un million de fidèles, donc essentiellement en Côte d'Ivoire et puis dans les États limitrophes, et qui est marquée par un grand discours sur la guérison. Donc j'avais réfléchi un peu là-dessus en voyant comment un prophète, William Wad Harris, gagnait finalement les ressortissants, les tenants des religions traditionnelles au christianisme en prêchant sur la santé et le salut. Donc j'ai réfléchi là-dessus. Donc c'était un premier travail académique. À Madagascar, je l'ai abordé d'une façon beaucoup plus concrète. On m'avait confié plusieurs missions, donc l'installation de jeunes médecins en brousse. J'étais chargé aussi de l'infirmerie de la prison de Tuléar. Et puis j'avais pu fonder un centre de réhabilitation nutritionnelle pour permettre aux mamans de prendre en charge leurs enfants malnutris. Donc ça, ce lien entre santé et salut s'est fait assez spontanément, naturellement, au contact de l'homme en détresse, que ce soit dans les prisons ou que ce soit à travers la malnutrition, les famines périodiques qui se dévoilent à Madagascar, dans le sud de l'île. Et pour moi, je crois que ma foi m'a permis de prendre en compte qu'il y avait une bonne nouvelle et qu'on n'était pas seul quand on souffrait, qu'il y avait une solidarité qui se manifestait. Elle se manifestait par l'immense réseau des dispensaires catholiques, des sœurs notamment, qui ont le souci d'aider les plus pauvres à être dans la dignité. Je pense aux lépreux qui sont très présents aussi à Madagascar. Et puis toutes les autres congrégations qui travaillent pour la santé des enfants à travers les dispensaires, les centres de réhabilitation. Et ça, pour moi, c'est important. Notre foi est incarnée.
Et puis après cette étape de Madagascar, on vous demande de rentrer. Vous êtes provincial de France, puis quelques années après, le supérieur général des Assomptionnistes. Alors, Père Benoît Grière, les Assomptionnistes, c'est aussi des intellectuels, des gens qui étudient. Comment faites-vous le lien entre ce que vous avez découvert, salut, santé, et cet aspect plus intellectuel des Assomptionnistes ?
Alors, l'aspect intellectuel remonte à notre fondateur qui a voulu que nous soyons présents dans la société pour rendre compte de notre foi avec une possibilité pour nos contemporains de comprendre. Donc, notre fondateur a voulu que nous soyons présents dans ce monde et que nous puissions rendre compte de la foi avec des mots accessibles aux contemporains. Donc il voulait qu'on atteigne aussi un large public. C'est ce qui lui a permis de soutenir un de ses premiers religieux pour l'œuvre de presse, la Bonne Presse, qui est devenue Bayard Presse par la suite.
Père Benoît Grière, comment vous faites le lien entre tout ça ?
Bon, aujourd'hui, dans ma charge, c'est de favoriser l'intelligence de la foi au niveau de nos communautés et de nos religieux. Donc je tiens à ce que mes frères, l'ensemble de la congrégation, en travaillant intellectuellement, puissent devenir des apôtres.
Pour terminer, Père Benoît Grière, comment vous voyez à la fois ces 30 dernières années, est-ce qu'elles peuvent être synthétisées autour d'une parole d'évangile, autour d'une rencontre, et quelles sont les perspectives que vous envisagez pour l'Assomption ?
Dans les paroles d'évangile qui me marquent et qui m'ont toujours marqué, à qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pour moi, c'est de faire une confiance absolue au Seigneur Jésus. Bien évidemment, la foi n'est pas paisible, c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est quand même un peu comme disait Jean 23, la fontaine du village où on vient se rafraîchir. Et le Seigneur, nous ne pouvons pas nous en aller loin de lui. Et pour les prochaines années, c'est aussi une citation de Saint Paul, les temps anciens s'en sont allés, les temps nouveaux sont déjà nés. Nous avons à être des fondateurs. Je pense que c'est ça, c'est cette ouverture vers le monde, des temps nouveaux. Mais les temps ne seront nouveaux que s'ils accueillent la nouveauté de l'Évangile.
C'était le Père Benoît Grière, médecin et religieux, l'actuel supérieur général de la Congrégation des Assomptionnistes. Un entretien retrouvé sur notre site internet www.radiovaticana.va. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Prochaine émission, demain, même lieu, même heure.